Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. Une histoire du rock à travers le psychédélisme. Un rock qui deviendra très bavard, peut-être à cause de Bob Dylan. Le LSD vient de San Francisco. Les guitares montent vers le Nirvana et les musiciens éprouvent un sentiment de supériorité parce qu'ils prennent de l'acide. Psychédélia, de 1965 à 2001. Deuxième émission, le folk psychédélique. Première diffusion sur France Culture le 24 juillet 2001.
La musique commence.
Un peuple immense qui ne sait plus d'où il vient,
psychédélia,
ni où il va.
Hallucination due au toxique.
Psychédélia. Psychédélisme.
Psychédélia.
Psychédélia.
Psychédélia. Psychédélia. Entendre des voix. Perception pathologique de faits, d'objets qui n'existent pas.
Which was my first experience with junk.
Pour moi, la vision d'un mec qui écoute un truc psychédélique, c'est t'es assis sur un siège où il y a deux accoudoirs, tu te tiens dessus, tu dis putain où on va.
Psychosensation.
Psychomètre.
Psyché.
Hallucination collective. Aujourd'hui, le folk devient psychédélique.
Le 21e siècle sera psychédélique ou ne sera pas.
Le plus joué par les groupes psychédéliques, c'est Bob Dylan.
Philippe Héré.
S'aperçoit d'ailleurs en faisant un bouquin comme ça que à quel point Bob Dylan était important pour les États-Unis. C'est-à-dire que tous ses morceaux sont repris. C'est rare qu'il n'y ait pas un groupe qui reprenne un morceau de Bob Dylan à un moment ou à un autre. Mais bien sûr, c'est totalement transformé. C'est plus la même chose. Quand ils reprennent des morceaux acoustiques de départ, bah, c'est plus de l'acoustique, ça devient de l'électrique complètement délirante. En même temps, Bob Dylan lui-même a fait des disques psychédéliques, on peut dire, avec Highway 61 Revisited, avec Desolation Row qui fait 8 minutes, avec Mike Bloomfield à la guitare électrique derrière, Al Cooper, c'est déjà autre chose, quoi. C'est plus du tout du folk rock comme au départ, ou du folk simplement, ni même du folk rock, ça va beaucoup plus loin que ça. Dans les paroles aussi d'ailleurs, très influencé également par le LSD, Dylan à cette époque-là.
Once upon a time you dressed so fine, threw the bumps of dime in your prime. Then you, people call, say beware doll, you're bound to fall, you thought they were all kidding you. You used to laugh about everybody that was hanging out. So loud. Now you don't seem so proud about having to be scrounging your next meal. How does it feel? How does it feel to be without?
Bob Dylan joue mal de la guitare, mal de l'harmonica, il chante faux, d'une manière désagréable, mais bizarrement il hypnotise. Ses premiers textes sont du pain béni pour la jeunesse américaine. Il parle de la guerre, de l'argent, de l'exclusion, avec des réponses faciles. Ses chansons ne laissent aucun doute quant à ses habitudes toxicologiques. Un jour, il enregistre Blowing in the Wind et dépasse le statut de chanteur folk. Fin 1963, il devient l'idole de la jeunesse américaine. Pour la première fois, ce clochard céleste écrit des chansons qui parlent réellement de quelque chose. Bob Dylan, c'est la révolte. Il électrifie sa guitare. Le rock en sera à jamais changé.
« 15. La compagnie Alpha a avancé d'environ 500 mètres depuis ce matin. Elle a avancé extrêmement lentement, extrêmement prudemment, fouillant avec soin tous les taillis, tous les fossés. Et nous sommes arrêtés maintenant dans un grand champ en friche, appuyé au mur d'une maison détruite, car toute cette région a été évacuée par ses occupants. C'est un grand champ en friche, on entend les oiseaux qui chantent, chacun s'est mis à l'ombre, a ouvert ses boîtes de rations, posé son casque, et ce n'est pas un des moindres paradoxes de cette guerre que de voir que cette opération de combat a des allures de pique-nique.
Séparer, par exemple, la musique à cette époque-là ou la prise de l'SD avec des grandes manifestations contre le Vietnam, les grandes manifestations au moment de la Convention démocrate, c'est la même chose. Des grands rassemblements dans les festivals, c'est la même chose. Ça appartient à la même chose, c'est une espèce de révolte. C'est, on va faire la révolution. On va faire la révolution par la musique, par l'amour, par les manifestations, par tout, quoi. Tous les moyens sont bons pour arriver à la révolution. Et c'est là aussi où est né ce qu'on a appelé la société alternative, un peu. C'est un ensemble de choses. Il y a aussi les diggers à San Francisco. Ce qu'ils font, c'est qu'ils reprennent, ils font les poubelles, ils récupèrent tout ce qu'ils peuvent récupérer, les déchets de la société de consommation qui sont tout à fait consommables et qui redistribuent. Ils font des hôpitaux gratuits, ce qui n'existait pas aux États-Unis. Ils font plein de choses comme ça.
Pour la première fois, Dylan explose les formats. Like a Rolling Stone dure 6 minutes. Il se moque des poètes. On voit ce que veulent dire ces paroles, mais on ne comprend pas vraiment. Il se situe sans arrêt entre les hallucinations des drogues, le jeu et la provocation. Il est à la fois beat et surréaliste dans la tradition de l'écriture automatique.
Lenny Kaye.
La musique psychédélique, ça vient du folk rock de Bob Dylan. Je pense que les Birds sont un très bon exemple de ça. Ils sont très importants parce que c'est eux qui ont fait la passerelle entre le folk rock et des morceaux comme 8 Miles High, qui est complètement psychédélique. Ils avaient un côté très science-fiction et un côté très futuriste qui est très important dans le psychédélisme. C'est regarder le futur en face. Parce que la musique psychédélique vous emmène au-delà de la Terre, dans un environnement stellaire. Ce morceau, par exemple, il n'y a pas de mélodie, ce sont juste des sons qui s'entrechoquent. Ça ressemble un petit peu au free jazz pour moi, à Albert Heller ou John Coltrane. Pour moi, c'est ça la musique psychédélique, Sun Ra, quelque chose de pas terrestre.
Il y a toute une controverse autour du morceau 8 Miles High, parce que lorsque le morceau a été interdit à la BBC en 1966, les Birds ont dit, non, c'est pas du tout un morceau psychédélique, 8 Miles High, c'est un morceau qui parle d'être en avion à 8 miles, effectivement, au-dessus de la surface du globe. Puis évidemment, il y avait le côté double, oui, mais c'est en même temps planer très haut en l'air, à 8 miles, etc. Bon, mais ça, c'est du folklore, c'est-à-dire c'est du folklore au sens littéral du terme, d'une chanson qui parle d'un état d'esprit de l'époque. Quand Woody Guthrie faisait des chansons sur les problèmes syndicaux des ouvriers américains, il parlait de la même chose, c'est-à-dire il parlait de ce qui se passait à son époque, et Crosby, il parle de ce qui se passe à son époque, c'est-à-dire on plane, on s'envoie en l'air, l'humain, etc. Mais musicalement, la forme du morceau n'a rien de révolutionnaire, n'a rien de psychédélique. C'est un morceau, bon, il y a des côtés country d'ailleurs dedans, c'est assez curieux, justement. Il y a un mélange de country, de folk, de rock, c'est pas mal foutu. Évidemment, c'est un petit clin d'œil en même temps.
La poésie de Dylan, les mélodies des Beatles, les visions du guitariste David Crosby et la transe de Coltrane sont à l'origine de la déferlante folk psychédélique qui envahit les États-Unis. À San Francisco, la plupart des musiciens ayant intégré la scène psychédélique ont fait leur classe dans la musique folk. Le premier manager du Jefferson Airplane avait d'ailleurs inventé le terme « faux jazz », mélange de folk et de jazz, pour définir le nouveau son de la côte ouest.
La Californie est le paradis des adolescents. C'est l'endroit pour lequel la pop a été créée. Chuck Berry lui a consacré une chanson, The Promised Land, la terre promise. Et comme toujours, il savait de quoi il parlait. La Californie élargit tellement le concept de réalité que celle-ci devient imagination pure. Pour ce qui est de la pop, c'est l'Eldorado, le pays merveilleux, loin au-delà des mers, où l'âge est suspendu à 25 ans, l'école est hors la loi, le coca coule à flot des fontaines publiques, et la vague cosmique parfaite se déroule indéfiniment sur la plage de Malibu. Le pays des mangeurs de lotus. Ainsi est la Californie. Alors que les jeunes vivent dans les immeubles miteux de villes grises où il pleut tout le temps, ils savent que ce n'est pas juste et qu'il doit exister quelque chose de mieux. La Californie, est-ce quelque chose de mieux?
And when you've given all you had, and everything still turns out bad, and all your secrets are your own, then you feel your heart beating from bum bum bum. And I'm wrapped in my armor, but my things are material. Confusions, 'cause my things are material. And you don't know how much I love you. Oh, oh, oh. And if you see and more again, then you might be and more again. For you just wish and you are here. Then you feel your heart beating from bum bum bum. Things are material.
Disons que sur la côte ouest américaine, le folk s'est davantage développé et a rencontré évidemment très tôt le rock, et les deux sont mariés de manière tout à fait naturelle. Mais on prend The Grateful Dead, c'est un groupe qui au départ est un groupe de plus ou moins de bluegrass. C'est-à-dire Jerry Garcia est un musicien de bluegrass qui joue du banjo, mais qui en même temps a découvert la guitare en écoutant Django Reinhardt, et devenu un fou de Django Reinhardt, et donc en même temps que le bluegrass, le folk, etc., dans sa musique, il a mis aussi du jazz, donc c'est assez plus complexe que ça. Jefferson Airplane, c'est carrément effectivement du folk rock, qui est assez proche de celui des Byrds, mais qui est moins académique que celui des Byrds, parce que les Byrds sont un groupe, une sorte d'encyclopédie vivante du répertoire des musiques folk américaines. Ils empruntent aussi bien la country du sud, le folk du nord, etc. Donc c'est un mélange de toutes ces cultures musicales américaines. Quant aux autres, Quicksilver tire davantage vers le rock'n'roll, c'est une sorte de phrases rock'n'roll très très allongées, en partant de thèmes basiques comme ceux de Bo Diddley par exemple. Et Big Brother, c'est du blues. Janis Joplin, avec Big Brother and the Holding Company, c'est du blues. C'est du blues, une manière de chanter le blues un petit peu différente, avec des effets de guitare qui sont un peu plus appuyés. Chasing rabbits, and you know you're going to fall. Tell them a hookah, smoking caterpillar, has given you the call. Call Alice,
L'acid rock marque l'avènement de l'ère psychédélique. La musique n'est plus le seul médium. Ce que propose le rock à ce moment-là, c'est une expérience totale, presque multimédia. Les musiciens s'évertuent à recréer le trip d'acide lors de concerts messianiques qui durent des heures, accompagnés de light shows gigantesques.
Aux États-Unis, c'est tout juste, si le LSD ne faisait pas partie du décor, il apparaissait presque invariablement dès qu'on fréquentait les milieux un peu branchés. On rencontrait une petite minette de 16 ans, un peu marginale, et elle était déjà blasée de tout cela. Elle méprisait ceux qui n'en avaient pris qu'une seule fois, des amateurs. Au-delà de ce qui précèdent, l'acide parfait se déroule dans la maison du docteur Timothy Leary. On organisa une religion dont l'acide était le principe. Et même, à des niveaux moins solennels, on y voyait un remède à tous les maux, le chemin vers le véritable nirvana. Les consommateurs en parlaient tout bas, sur un ton de crainte mêlé de respect mystique. Ils fixaient l'espace qui s'étendait au-dessus de votre tête et vous deviniez que c'était l'infini qu'ils percevaient. Le fait d'avoir pris de l'acide donnait inévitablement un sentiment de supériorité. Après, les nouvelles perceptions aidant, on bombait le torse. On pensait avoir visité des régions encore inconnues de tout un chacun. On possédait les réponses à toutes sortes de questions mystérieuses. On était prétentieux. Impossible de faire autrement.
L'acid rock, ce qu'on a appelé l'acid rock, c'est, acid, ça vient de LSD, c'est un mouvement en général qui vient de San Francisco et qui est simplement des musiciens qui prennent de l'acid et c'est des musiciens qui jouent, souvent c'est des groupes qui jouent à base de guitare, de longues chevauchées de guitare. On monte toujours vers le nirvana, quoi. C'est un peu ça l'acid rock, c'est monter vers le nirvana, atteindre le sommet à base de solo de guitare. Les meilleurs disques de l'acid rock d'ailleurs, comme Darkstar, comme le Quicksilver, Happy Trail, c'est des disques en public. En faisant participer un peu le public il va simplement taper dans les mains, ça commence à là, il va crier, il va brailler, on va se servir de ses cris, on va se servir de ses battements de mains, de ses applaudissements, pour les intégrer dans la musique et pousser le musicien vers le sommet de la musique.
La bande dessinée tout d'abord se fait l'écho de cet esprit avec des fanzines comme Feds and Heads, des dessinateurs comme Robert Crumb ou Gilbert Shelton. Puis ce sont les murs de San Francisco qui se recouvrent d'affiches multicolores.
L'affiche psychédélique,
Jean-Michel Brunet.
Cette affiche, elle naît d'une communauté, une communauté qui se retrouve autour d'événements musicaux. Et ces événements musicaux laissent en deuxième plan cet art psychédélique, ce graphisme qui essaie de retraduire les light shows de ces concerts. Ces affiches-là étaient d'un format réduit.
c'était des techniques d'offset où l'imprimeur participait beaucoup à la création elle-même, liée à l'utilisation, une utilisation à outrance, hein, parce qu'on veut cette outrance, des couleurs complémentaires, du rouge, du vert, de l'orange et du de l'anis, du mauve et de l'orange. Toutes ces couleurs sont là pour tenter de retranscrire cette expérience psychédélique. Tout est fait en fait pour que le concert ne soit pas lisible, c'est-à-dire que bon, le rôle d'une affiche, on pourrait s'attendre que le rôle d'une affiche soit tout sainement d'annoncer au plus grand nombre l'événement. Si l'on n'est pas membre de la communauté lysergique, il y a peu de chances qu'on saisisse les mots, l'intention et le sens et la date et le lieu de l'événement. Breakfast where the news is read, television, children fed, unborn living, living dead. Bullet strikes the helmet's head, and it's all over for the unknown soldier. It's all
combinaison de l'art psychédélique, des solos interminables du Grateful Dead, de la littérature hippie, des light shows, de certains films cultes comme 2001, entraîne la pop dans un cauchemar en technicolore, l'art rock.
Mais un vrai poète avait émergé du psychédélisme, Jim Morrison, avec son groupe Les Doors.
Nick Kent.
C'est difficile d'expliquer à quel point Jim Morrison était exotique à cette époque. Vous écoutiez ces disques, Light My Fire, les deux premiers albums des Doors. C'était très entraînant. Ce type ramenait de la poésie avec des influences occidentales, européennes, sombres. Et ça marchait, ce n'était pas prétentieux. En plus, il regardait toute la culture acid rock avec dédain. Il voyait tous ces gens qui se grillaient le cerveau. Et tout ce mouvement libertaire ne le bernait pas. Il faut se rappeler qu'à l'époque, Charles Manson allait bientôt commettre le meurtre de Sharon Tate, et on pouvait déjà entendre ça dans la musique des Doors. Les Rolling Stones, c'était une question de s'amuser. La plupart du rock'n'roll, ça a toujours été ça, on s'amuse. On sort le soir, avec des filles, on se saoule. Mais les Doors, c'était vraiment complètement différent. C'était un poison. Eux, ce qu'ils disaient, c'était que si on se rendait au Flower Power, on deviendrait une marionnette.
En voulant faire du rock une nouvelle poésie, Bob Dylan et Jim Morrison ne lui ont pas forcément rendu service. Le rock va devenir excessivement bavard. La notion même d'art rock est une stupidité. Car si le bon rock peut être de l'art, il n'existe pas vraiment de bon rock artistique. Ce que revendique l'art rock, ou le rock progressif, c'est d'élever le rock and roll au rang des arts majeurs, en embrassant les mêmes valeurs, à savoir la virtuosité technique et la densité conceptuelle. Procol Harum obtient un tube majeur en paraphrasant la cantate numéro 3 en ré majeur de Jean-Sébastien Bach. Les Moody Blues, après des débuts prometteurs, terminent leur carrière avec des disques instrumentaux dans lesquels s'insèrent des lectures de poèmes atroces en hommage à Timothy Leary, le grand prêtre de la révolution psychédélique. La plupart de ces groupes étaient issus de l'équivalent anglais des Beaux-Arts, et l'album Sgt. Pepper's des Beatles leur avait fait croire qu'ils étaient capables de créer une musique sérieuse, susceptible peut-être d'être acceptée par leurs parents. Pourtant déjà aux États-Unis, à New York, Détroit, ou dans des coins reculés du Texas, la contre-offensive se prépare. Le punk psychédélique va remettre les compteurs à zéro. Iggy Pop et les Psychedelic Stooges sont la glace et le feu, aussi frénétique et méchant qu'un très mauvais trip de LSD. C'était Psychédélia. Aujourd'hui, le folk psychédélique, une série des chemins de la musique proposée par Marc-Alexandre Milenvoie. Avec Nick Kent, journaliste, écrivain, Alain Dister, auteur de Oh Hippie Days, Philippe Erré, auteur de l'ouvrage Le rock psychédélique américain, et Lenny Kay, le guitariste de Patti Smith. Équipe psychotechnique, Bruno Martin, Sylvain D'Angoise, Christian Fontaine. Réalisation et hallucination, Jean-Philippe Navarre. Texte de Nick Cohn, lu par Jean-Luc de Baptiste. He took a face from the ancient gallery and he walked on down the hall. He went into the room where his sister lived and then he paid a visit to his brother and then he walked on down the hall and he came to a door and he looked inside the end.
Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 24 juillet 2001. Vous pourrez la réécouter, ainsi que le premier volet de la série, sur le site franceculture.fr, rubrique Les Nuits de France Culture. Prochaine émission, Psychédélique Punk.